Voilà, nous allons commencer une nouvelle série intitulée Le vocabulaire chrétien. Le but, c'est de connaître la signification d'un certain nombre de mots utilisés dans les milieux chrétiens afin de dire un mot à sa place à chaque fois qu'on s'exprime. Et afin aussi de voir la, quand on cite un nom, qu'on voit la profondeur, quand on cite un mot, qu'on voit vraiment le contenu qui est dedans, que ça ne soit pas des formules qu'on utilise, ça devient comme des habitudes, on ne sait plus ce que ça veut dire. Voilà, donc nous allons aujourd'hui essayer de parler des mots qui commencent par « a ». Je dis bien, ce n'est pas tous les mots, c'est, on va prendre les mots essentiels qu'on utilise dans les milieux chrétiens afin que chacun sache ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, on commence par A et puis on essaiera de travailler quelques mots en B et puis on continuera la fois prochaine. Donc, on commence par agape. C'est quoi une agape? C'est un repas que les chrétiens prenaient traditionnellement ensemble, donc régulièrement. Et nous lisons ça dans Jude au chapitre 12, Jude verset 12, parce que le livre de Jude n'a qu'un seul chapitre. Jude. Au verset 12, il est écrit ceci. Ce sont des écueils dans vos agapes. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents. Des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. Là, le frère Jude est en train de parler des faux frères, donc des gens qui viennent dans les agapes, semer le désordre et manger beaucoup, donc faisant bonne chère. Donc, ils mangent beaucoup et ça crée un désordre, ça crée des murmures. Donc, c'est des écueils. Les écueils, c'est des obstacles. C'est des écueils dans vos agapes, donc des gens qui viennent gâcher vos agapes. Donc, quelque part, c'est que s'il en parle comme ça, c'est que les agapes étaient quelque chose de fréquent. C'était comme à peu près les prières. Il dit, ce sont des écueils dans vos agapes, hein, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Donc, c'est des gens qui eux-mêmes faisaient en sorte de manger le maximum et ça mettait le désordre au milieu des enfants de Dieu. Et on confond souvent agape et agapé. Agape, ce n'est pas agapé. Donc, quand on dit l'amour agapé, agapé, c'est l'amour de Dieu. Donc, l'amour qui vient de Dieu, cet amour qui doit nous conduire jusqu'au sacrifice s'il le faut. Donc, agape, ce n'est pas agapé. Donc, souvent, on entend des chrétiens dire « on a agapé tout à l'heure ». Non, on a agape, on a une agape tout à l'heure, mais ce n'est pas agapé. Voilà, donc c'est que ça veut dire une agape. Maintenant, on doit faire remarquer que le premier chrétien, au début, mélangeait agape et sainte-sainte. Donc, au début, quand il faisait une agape, c'était en même temps la sainte-sainte. Et dans 1 Corinthiens 11, vu les désordres qu'on vient d'expliquer, de citer, l'apôtre Paul conseille de séparer les deux, de mettre l'agape à côté, Sainte-Seine à côté, pour éviter que les gens soient maudits et se maudissent eux-mêmes. Donc, c'est écrit dans 1 Corinthiens 11. Il est écrit ceci. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Donc l'apôtre explique que au lieu de se réunir pour prendre la Sainte Cène, le repas du Seigneur, se souvenir de la recommandation du Seigneur, se souvenir de sa venue proche, se souvenir de sa crucifixion à la croix, chacun mange pour son ventre. Donc on comprend par là qu'il y avait une confusion, donc il y avait une fusion plutôt, entre la Sainte Cène et l'agape. Donc les gens faisaient la Sainte Cène en même temps qu'ils mangeaient. Maintenant, au lieu de se concentrer sur la Sainte Cène, ils se concentraient sur leur ventre. Donc c'est ce qui a dégoûté l'apôtre Paul. D'ailleurs, l'apôtre Jude en parle aussi. Il dit, mais ce sont des écueils dans vos agapes. Donc des gens qui contrariaient les autres, qui venaient boire et manger, au lieu de prendre au sérieux la Sainte Cène. Et donc nous continuons. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de maladies et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Donc l'apôtre Paul explique que maintenant, quand on se rassemble pour le repas, nous ne devons pas nous concentrer sur le repas, mais sur la Sainte Cène. Donc à l'époque, ils mangeaient et c'était pour eux le souvenir en même temps de la Sainte Cène. Mais Paul et Jude nous ont montré les conséquences. C'est que finalement, les gens se concentraient plus sur leur repas plutôt que sur le souvenir de l'œuvre accomplie par Christ. Par conséquent, Paul dit, si quelqu'un a vraiment faim, qu'il mange chez lui. Si on doit faire la Sainte Cène, que ce soit en quelque sorte, ça c'est moi qui rajoute le mot symbolique, mais que ce ne soit pas pour manger, mais que ce soit pour faire la Sainte Cène, pour se souvenir de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Donc on voit qu'au début, il y avait une sorte de fusion entre l'agape et la Sainte Cène. Mais ce n'est pas la même chose. Donc on voit dans cette explication de Paul, il dit, on va séparer les choses maintenant. Ceux qui veulent vraiment manger, qu'ils mangent chez eux. Quand on doit prendre le pain et la coupe, que ce soit que pour le Seigneur, que ça ne soit pas dans le but de se nourrir. Voilà ce qu'il dit. Il dit que ce verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. On voit aussi un élément très important, c'est que pour parler de la Sainte Cène, l'apôtre Paul n'utilise que le pain et la coupe. Il ne parle pas d'autre chose. Il dit, tu discernes ce que tu fais. Pourquoi je vais prendre ce pain? Enfin, pourquoi je veux me rappeler de ce que Jésus avait fait? Donc, tu discernes ça, tu te rappelles que Jésus a été crucifié à la croix, c'est son corps qui a été livré, et ce pain-là qui est brisé symbolise ce corps, et le vin qu'on prend symbolise son sang. Ah, donc l'apôtre dit, mais il faut se concentrer sur ces deux symboles-là, le pain et la coupe. Maintenant, celui qui veut vraiment manger, ben, qu'il mange chez lui, qu'il ne vienne pas transformer le repas du Seigneur, le repas qui est un commandement du Seigneur, en un repas personnel. C'est pourquoi on voit qu'il insiste sur le pain et la coupe. Vous savez, tout ça c'est important, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que il faut, pour faire la Sainte Cène, il faut que ça soit un vrai repas avec de la viande, avec la sauce, avec voilà, un repas normal. Mais il est vrai qu'au début, c'était le cas. Donc nous ne nions pas ça, parce que d'ailleurs les remarques viennent de ça. Au début, c'était le cas. Ils mangeaient vraiment pendant leur repas. Ils consacraient ça à Dieu comme le repas du Seigneur. C'était un repas normal qu'ils consacraient à Dieu comme le repas du Seigneur. Maintenant, je ne sais pas si le pain, il était sans levain ou bien... voilà, comment il était. Mais... on se rend compte en lisant 1 Corinthiens 11 que le repas est la cène. La cène, c'est le dernier repas du Seigneur. Il nous a demandé de répéter ça en souvenir de son œuvre à la croix. Donc, on se rend compte qu'il faisait les deux en même temps. Donc, et le repas est le repas du Seigneur. Mais il y a eu des conséquences. C'est qu'en le faisant comme ça, en fusionnant cela, les gens commençaient à exagérer et à manger sérieusement et à dénaturer consciemment le repas du Seigneur. Et ce qui entraînait quoi? Des malédictions, des infirmités, des morts même. C'est ça la réalité. C'est pourquoi, lorsque nous arrivons au moment de la scène, nous prévenons que les gens doivent discerner ce qu'ils font, doivent comprendre que s'ils prennent cette scène, c'est ce pain et le fruit de la vigne, c'est ils doivent considérer qu'ils entrent dans le mystère de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Donc ils deviennent vraiment de nouvelles personnes, ils vivent cette nouveauté-là en Christ. C'est pourquoi nous avons tendance à avertir les gens à ne pas prendre s'ils ne sont pas en règle avec le Seigneur. Et c'est pourquoi nous avons aussi l'habitude de dire ceux qui ne sont pas baptisés, qui ne prennent pas. Parce que le baptême, c'est le contrat qu'on fait avec le Seigneur de mort et de résurrection pour vivre avec lui. Or, celui qui n'est pas baptisé, il ne peut pas prendre la Sainte Cène parce que c'est comme une sorte de contradiction. Si vraiment il veut prendre la Sainte Cène, donc il discerne l'œuvre accomplie à la croix par Jésus, ben, il devrait se faire baptiser aussi en même temps pour faire le contrat avec lui. Donc, les deux, c'est pourquoi on a tendance à dire cela. Dans tous les cas, il y a une différence donc entre agape et sainte cène. Toutefois, au début, ça se faisait conjointement, mais à partir de 1 Corinthiens 11, l'apôtre nous exhorte à les séparer. Donc, si vraiment quelqu'un a faim, qu'il mange pour lui-même, à côté, et qu'il vienne juste prendre la coupe et le pain pour se souvenir de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Voilà concernant le mot agape. Nous continuons avec le mot, oui.
Oui, il y a des personnes qui viennent de l'extérieur qui sont, entre guillemets, choquées qu'on ne fasse pas la Sainte Cène tous les dimanches.
Alors, le Seigneur ne nous a pas donné un jour pour le faire. Et il ne nous a pas, donc quand le Seigneur donne l'instruction, même quand on lit le texte de Paul là, il ne nous donne pas une instruction. Le Seigneur a fait ça
Vous savez, si on veut être strict, si on veut être strict, le Seigneur a fait ça le jour de la Pâque. Donc, il a fait ça à ce moment-là. Donc, si on veut être biblique, strict, on va attendre Pâque. Non, parce que nous, pour nous, dans 1 Corinthiens 5, on dit que Jésus est notre Pâque. Donc, tous les jours est notre Pâque. Donc, le Seigneur n'a pas fixé le nombre de fois à prendre ça par an ou par mois. Il n'a pas fixé cela. Toutefois, quand nous lisons dans Actes des Apôtres au chapitre 20, il est écrit au verset 7, « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. » Le premier jour de la semaine, c'était quel jour? C'est le lundi. Non, mais le premier jour, ce n'est pas le lundi. Ah, mais c'est... Le premier jour de la semaine... Non, mais c'est le lundi, puisque le dimanche... Non, je voulais piéger les touristes. Voilà. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Puisque le dernier jour, c'est le septième jour, c'est samedi, le septième jour. Mais c'est... l'Occident qui a changé un peu les choses, mais à l'origine, dimanche était le premier jour. Donc le premier jour de la semaine, ils se réunissent pour rompre le pain. À partir de là, beaucoup de communautés chrétiennes ont considéré qu'il fallait faire ça le dimanche. Mais le Seigneur, lui, n'a pas donné d'instruction par rapport à ça. C'est pourquoi on le fait en fonction de la conduite du Saint-Esprit. Donc on peut le faire tous les jours même, on peut le faire vendredi, mardi, on peut le faire, quand on est réunis, on peut le faire. Mais il n'y a pas une fréquence imposée par le Seigneur. Donc on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et je sais que ces gens-là sont choqués, c'est l'occasion pour eux de découvrir que le Seigneur n'a pas fixé. Donc quand on dit, moi je discute avec eux, c'est écrit nulle part qu'il faut prendre ça tel jour, tel jour, tel jour. Donc là c'est écrit le premier jour de la semaine. Oui. Mais là, on est déjà sur la Sainte-Seine, on a déjà dépassé la gap, mais ce n'est pas grave.
Mais maintenant, est-ce que on peut prendre la Sainte-Seine même aux cellules et tout ça, quand on est
réunis? Ah oui, réunis, quand on est réunis, on peut prendre la Sainte-Seine, voilà, oui, oui, même en cellule de prière. Ce qu'on appelle cellule de prière, c'est une aberration, c'est une église, c'est l'église. L'église, c'est l'assemblée des enfants. Lorsque les enfants de Dieu sont quelque part, c'est l'église, c'est le corps du Christ. Donc après, nous, les humains, on veut faire la différence quand ça se déroule dans la grande salle. Et puis non, pour Dieu, c'est la même chose. Que vous soyez à 3 ou à 4, c'est l'église. Voilà, donc on peut prendre la scène en cellule de prière, on peut prendre la scène. Voilà, quand on est à 4, à 5, à 3, on peut se souvenir de l'œuvre accomplie par le Seigneur. Il n'y a aucune fréquence qui n'est imposée. On a dévié, bon, mais c'est trop tard. Parce qu'il y a des gens qui vont loin. Eux, ils veulent carrément, il faut partager la coupe. C'est-à-dire que pour les petits verres qu'on distribue là, pour eux, ce n'est pas la Sainte-Seine. Il faut qu'on prenne une même coupe, qu'on se partage, puisque quand Jésus avait fait ça, c'était une seule coupe qu'ils se sont donnée. Bien, mais ce n'est pas que... Voilà, mais après, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'ils ont un mouchoir, ils essuient après. Moi, je dis, mais quand Jésus avait fait passer la coupe, il n'y avait pas de mouchoir pour essuyer. Alors, quand vous allez dans ces communautés-là où on fait passer la coupe, ils essuient avec un mouchoir, moi, je dis, mais... Donc, soit on veut aller jusqu'au bout, allons jusqu'au bout. Donc, il ne faut plus essuyer. Non, mais est-ce que quelqu'un peut veiller pour ce qu'on ferme les... Parce qu'il y a le bruit qui arrive jusque là. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Moi, je dis bien aimé, n'inventons pas les choses. C'est simple. Le Seigneur n'a pas fixé comme quoi il fallait prendre dans le même récipient. Donc, il n'a pas fixé ça. Il a dit, voici le corps que je livre, le pain, c'est symbolise mon corps, et le sang, c'est le vin. Voilà, c'est tout. Et il y a des gens maintenant qui vont loin encore. Il faut que ce soit le vin à tout prix. Il ne faut pas que ce soit le jus de raisin. Mais le vin, c'est quoi? C'est le jus de raisin. Bon, bien-aimé, tout ça, c'est des complications. Donc, quand quelque chose commence à vous donner des maux de tête, sachez que ce n'est plus Dieu qui est dedans. Dieu est venu nous donner la paix, la tranquillité, la simplicité. Et d'ailleurs, c'est qui le fruit de la vigne. Et quand Paul parle de la coupe, il parle pas du vin, forcément. Voilà. Donc, aux gens qui veulent à tout prix qu'on se partage le même verre, donc même quand on est à 400, on dit, on leur demande aussi à ce que cette coupe soit en bois. Est-ce que vous croyez que la coupe de Jésus-Christ était en métal? Qui sait ça? Normalement, les informations que nous on a en voyageant en Israël, c'était une coupe en bois ou en pierre. Donc eux, ils vont venir avec un verre de une coupe de glace là. Donc ils vont se partager. Mais non, il n'y avait pas de verre à l'époque. Et à ceux-là, nous encourageons à ne plus essuyer. Donc s'ils veulent respecter le Seigneur à fond, là, ce qui est écrit, qui n'essuie plus, parce que le Seigneur n'a pas, les apôtres n'ont pas essuyé quand il s'est passé, on ne nous dit pas ça. Mais malheureusement, eux, ils essuient. Voilà. Et donc, maintenant, que faire lorsqu'on se retrouve dans des configurations comme ça? On prend, il n'y a pas de problème. Oui.
Oui, je voulais savoir, pour les catholiques, pour eux, c'est une sainte scène aussi ce qu'ils font, mais... Du coup,
n'est pas une sainte scène parce qu'eux, ils ne prennent pas le vin. Le public mange que le pain. Et c'est le prêtre qui a un gros morceau de pain et puis une grosse coupe à lui tout seul.
D'accord. Donc mais le public... si on suit la parole, est-ce qu'ils attirent aussi une malédiction ou pas?
Mais non, mais eux, ils attirent même pas une malédiction. Ils sont dedans. C'est... ils ne s'attirent pas une malédiction. Ils sont dedans. Ils sont dans la malédiction. Parce que déjà, les chrétiens ne prennent pas le vin. Or, ici, on vient de lire qu'il faut que le chrétien prenne le pain et le vin. Le pain et la coupe. On vient de lire. Donc là, c'est le prêtre lui-même qui donne de petits morceaux aux chrétiens. Et lui, il prend un gros... voilà. Et puis... Ensuite, il boit tout seul. Moi, ça fait mal, tu vois, la personne boire vraiment sérieusement. Mais c'est ça la réalité. Ce n'est pas la sainte scène, ça c'est une autre chose. C'est une autre cérémonie, ça. Voilà. Donc, voilà un peu, j'ai voulu faire la différence entre agape et sainte scène. Donc, maintenant, on est d'accord, au début, les deux se faisaient en même temps. Mais Paul nous a exhortés à la sagesse. En faisant les deux en même temps, ça conduisait les gens à pécher par la gourmandise et finalement à s'attirer les malédictions à cause de la vérité qu'ils étaient en train d'offenser. Un autre mot qu'on utilise fréquemment dans les milieux chrétiens, c'est Alléluia. Donc Alléluia qui veut dire loué soit l'Éternel, loué l'Éternel. Voilà, donc Alléluia veut dire louer l'Éternel. Et on retrouve ça beaucoup plus dans l'Ancien Testament. Ça clôturait certains textes à louer. Vous connaissez louer l'Éternel de Psaume 150. Donc ça clôturait beaucoup d'autres textes. Et le mot qui va suivre qu'on va... cité, c'est le mot Amen. Donc, Alléluia, c'est ce que ça veut dire. Mais maintenant, aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, les gens citent Alléluia comme si c'était bonjour. Comme... Non, non. Dites-lui Alléluia de ma part. Mais non, bien-aimé. Ça veut dire quoi? Dites-lui Alléluia de ma part. Donc, c'est... dites-lui bonjour de ma part. Oh, mais dites-lui Alléluia. Mais tout ça, c'est des déviations où les mots sont devenus... Voilà, ont été altérés, chacun fait ce qu'il veut un peu. Et parfois dans les prières, il y en a qui citent ça pour se rattraper quand ils n'ont pas de mots. Alléluia. Non, il ne sait plus ce qu'il dit, c'est devenu machinal. Non, il faut vraiment être conscient, quand on dit Alléluia, c'est dans le but de dire loué soit l'Éternel. Donc réclamons cette conscience au Saint-Esprit, réclamons cette conscience auprès du Seigneur, que nous puissions dire les mots et penser ce que, comprendre ce qu'on dit et le penser vraiment. Et c'est ce que Dieu aimerait. Et puis, amen veut dire oui, hein, qu'il en soit ainsi. Donc, quand on dit amen, c'est oui, qu'il en soit ainsi. Ce qui veut dire que, ce qui fait que on ne peut pas dire amen par ambiance. Parce que tu dis oui à ce qui vient d'être fait ou dit précédemment. Donc, tu ne peux pas faire ça par l'atmosphère qui t'entraîne, les gens disent amen, toi aussi tu dis amen, tu ne sais pas pourquoi tu viens de le dire. Donc il faut dire amen quand on est d'accord avec ce qui vient d'être dit. Là on dit amen, oui, je suis d'accord, qu'il en soit ainsi. Voilà aussi ce que veut dire amen. Et puis oui.
Comment on peut expliquer dans certaines assemblées, là quand le pasteur prêche, il demande au public de dire « dites Amen ».
Il les oblige. Et eux aussi disent « Amen ». C'est pas bon. Donc il peut dire « donnez-moi l'argent, dites Amen ». Et eux disent « Amen ». Donc, et finalement, ils sont obligés de donner l'argent. Donc on les lit comme ça, c'est pas bon. Maintenant, je dis pas que tous les pasteurs qui font ça, ils sont mauvais. Mais les gens suivent les modes. Suivent. Il y a même des gens qui disent dites-moi un amen sérieux. Voilà. Dites-moi un amen américain. Donc c'est. Mais oui, mais certains vont penser que je blague, mais c'est une réalité. Je connais quelqu'un qui m'expliquait tout ça, qui avait assisté à la prédication d'un pasteur. Mais là, j'ai changé 5 sortes d'amen. Dites-moi un amen ceci, dites-moi un amen cela. Non, on dit amen parce que nous-mêmes, soi-même, on est d'accord. Donc, ça doit venir de nous. Quelqu'un ne peut pas nous l'imposer. Donc, quand nous-mêmes, nous sommes d'accord, nous disons amen. Voilà. Maintenant, si nous sommes conduits à le dire et que nous sommes d'accord, soyons heureux, soyons à l'aise. Donc, il ne faut pas qu'on devienne des gens qui réfléchissent tellement qu'on ne fait plus rien. Non, donc c'est juste qu'il faudrait être attentif à ne pas se laisser diriger par les modes, par les systèmes. Donc il faut que nous soyons conscients de ce que nous faisons. Oui. Derrière, Yafrel.
Oui, pour précision. Lorsque les personnes passent devant et qui modèrent, parfois ils peuvent suggérer le Alléluia ou bien le Amen, dans le sens où c'est comme si on disait au peuple, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, quand on dit je suis d'accord, il faut que l'on soit. Il ne faut pas qu'on dise pour satisfaire la personne qui est devant, ça continue à...
C'est l'impératif qui est mauvais. C'est le dit qui est mauvais. L'utilisation de l'impératif, c'est ça qui est mauvais.
Non. Si ça vient du cœur, si ça vient d'une inspiration, c'est-à-dire, quand on a suggéré, moi, je suis pas d'accord, on dise « dites Amen ». Je suis pas d'accord. On ne peut pas obliger quelqu'un à être d'accord. Mais que l'on dise « Alléluia » et que certains répondent « Amen », là... Il n'y a pas de problème. Ils l'ont fait par eux-mêmes. Mais dire aux gens, dites Amen, c'est leur imposer d'être d'accord. Or, on est d'accord que pour être d'accord avec quelque chose, ça relève de notre propre décision. Voilà, c'est ça le problème. Donc, on ne peut pas être d'accord parce que quelqu'un nous l'impose.
Donc, c'est bien l'impératif là, qui est mauvais.
C'est l'impératif.
C'est l'impératif qui est mauvais. Dites Amen. Parce que, comme tu as dit, il y a des pasteurs ou bien des dirigeants qui, par déformation, entre guillemets, bon, ils ont vu ça et puis ils le disent, dites Amen, mais peut-être qu'en lui-même, il ne veut pas imposer ça aux gens, mais il suit comme une sorte de mode, comme tu as dit.
Ah, mais mon peuple périt par manque de connaissances, il fait périr les gens quand même. D'accord. Donc on doit résister à ça. Donc quand on doit dire Amen, ça doit venir de nous-mêmes et Voilà, et je sais qu'il y a des gens qui insistent. On a été déjà invités quelque part où quand tu n'applaudissais pas et où tu disais pas amen, celui qui était en train de modérer va dire au coin là-bas il y a des gens mal intentionnés. Bon, bien aimé, c'est quoi? Ils disent pas amen. Comment on veut obliger les gens donc en les accusant comme ça? Là-bas je ne vous vois pas clair. Mais, parce qu'on veut créer de l'ambiance, obliger les gens à dire amen, obliger les gens à dire à applaudir. Non, on applaudit quand soi-même on est d'accord. Voilà, on dit amen quand soi-même on est d'accord. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui doit nous l'imposer. Voilà, c'est important. Sinon, un jour, tu vas accepter quelque chose de mauvais. Voilà donc le sens d'alléluia et puis... d'amen. Maintenant, quelqu'un peut, après avoir fait quelque chose, chanter ou prêcher, dire amen. Il dit son amen à lui-même. Maintenant, si les autres répondent par un amen, c'est leur liberté. Hein? C'est leur liberté. Mais ce n'est pas une imposition. Il dit amen par rapport à lui-même. Et les autres, s'ils veulent suivre, répondre, ça c'est leur part. Chacun fait en fonction de la conduite du Saint-Esprit. Un terme qui commence aussi par A, il y a ancien. Le terme ancien qu'on retrouve aussi dans les milieux chrétiens. À l'origine, donc ancien, qui veut dire aussi évêque. Évêque, ça veut dire surveillant. Et pourquoi il y a une sorte de fusion entre ces deux mots, ancien et évêque? Parce qu'au début, quand l'Église a commencé, naturellement, on a donné aux gens les plus âgés des responsabilités. Les choses venaient de commencer et n'oublions pas que l'Église est une émanation d'une communauté qui existait déjà, les Juifs. Et au milieu des Juifs, il y avait des anciens déjà, ça existait. Donc quand Moïse a choisi 70 anciens, donc cela existait déjà. Donc c'était des gens avancés en âge qui géraient la communauté juive. Donc les anciens, ça existait déjà. Et donc quand l'Église commence, on a au début donné des responsabilités pour... veiller sur un groupe, veiller sur un troupeau, enseigner un groupe, enseigner un troupeau, on a donné ça aux gens qui étaient d'un certain âge. C'est pourquoi on voit que le même terme, c'est-à-dire gardien, évêque, c'est le même terme qu'ancien. Donc ancien, c'est ce qu'est la personne, c'est un ancien en âge et peut-être aussi dans la foi, et gardien, c'est sa fonction. Donc les deux, c'est pareil. On peut appeler ancien ou évêque. Donc ancien, évêque, c'est la même chose. C'est des gens qui ont la responsabilité de veiller sur le troupeau de Dieu. Donc ancien, c'est l'état de la personne, une certaine ancienneté dans le travail de Dieu et dans l'âge. Mais ce n'est pas toujours obligatoire par rapport à l'âge, mais... au début, c'est ça qui était courant. Et ensuite, il y a évêque, ça veut dire gardien. Donc, ça vient du mot grec épiscopos, donc qui veut dire gardien, surveillant. Donc, les deux, ça désigne la même personne, ancien ou évêque. Donc, on peut appeler quelqu'un évêque ou ancien. On peut désigner quelqu'un évêque ou ancien, c'est la même chose. Mais dans les milieux chrétiens aujourd'hui, quand on dit évêque, c'est comme si c'était quelque chose de grand. Vous allez voir quelqu'un, on l'appelle pasteur, il dit « maintenant je suis évêque ». Mais attends, avant d'être pasteur, tu étais déjà évêque puisque tu étais ancien. On va voir ce que notre frère Pierre dit dans 1 Pierre 5. Et Pierre, nous savons que c'était l'apôtre du Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit dans 1 Pierre 5 ? à partir du verset 1er. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Voilà ce que Pierre dit. Je lance une exhortation aux anciens qui sont parmi vous. Donc, il parle aux anciens, donc aux gens qui gardent le troupeau. Et lui-même se désigne comme étant ancien. Donc, on ne peut pas... Ancien, c'est gardien du troupeau, responsable, qui s'occupe de veiller sur le troupeau. Et à travers les enseignements, à travers les entretiens, à travers les prières, à travers la discipline, c'est ça un ancien. Donc, quand quelqu'un se fait appeler évêque comme pour faire montrer que c'est grand, c'est une erreur, c'est des aberrations de langage. En réalité, évêque, c'est la même chose qu'ancien. Donc, on ne passe pas... c'est le catholicisme qui a changé les choses. Dans le catholicisme, donc on est d'abord prêtre. Ensuite, quand on est évêque, ça veut dire qu'on est responsable d'un diocèse, je crois, donc d'un groupe de plusieurs paroisses. Mais non, ancien, c'est évêque, ça veut dire qu'on veille sur un troupeau localement. Localement, ce n'est pas quelque chose d'universel. Un évêque veille sur un troupeau local, dans un endroit. Donc, quand on lit dans Tite au chapitre 1er, on peut lire ça aussi. Tite, chapitre 1er, verset 5. C'est Paul qui écrit à Tite. Tite, chapitre 1er, verset 5. Tite 1er, verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Donc, ancien, c'est un titre lié à une ville. Que tu établisses des anciens dans chaque ville. C'est un titre local. Donc, les gens de ta localité constatent ton intérêt pour la parole de Dieu, ton travail au milieu des brebis du Seigneur. Ton travail, ils voient cela et ils te désignent comme ancien, comme responsable pour veiller sur le troupeau de Dieu. Oui, ça marche. Hein?
Oui, à la différence du pasteur, quand quelqu'un est pasteur, il reste pasteur. Donc un ancien peut être ancien dans l'église locale ici, par exemple à Bethléem.
Mais là, je vais te passer mon micro.
Je disais, donc un ancien peut être juste ancien, par exemple, j'ai dit à Bethléem.
C'est
quand
tout.
Il va, par exemple, au Congo, au Gabon, il n'est plus
il
ancien.
Il n'est plus ancien. Parce qu'on ne le connaît pas. Donc, ancien, c'est quelque chose qui émane de ton travail local. Donc, c'est pourquoi avant, justement, c'était des anciens, c'est-à-dire des gens qu'on a vus, des gens qui avaient des responsabilités, qui travaillaient. On a vu. C'est pourquoi ancien et évêque, ça, c'est la même personne. Donc, ancien, ça montre sa nature. C'est quelqu'un qui a une certaine expérience. C'est quelqu'un qui a fait un certain travail. Et évêque, c'est sa fonction. Donc, il garde le troupeau. Donc, c'est le même titre.
D'accord. Donc, c'est quelqu'un ancien ici et arrivé ailleurs.
Il n'est pas ancien ailleurs.
On ne peut plus l'appeler ancien.
Non, ce n'est pas question d'appeler, mais il ne l'est pas. Parce qu'on peut toujours appeler ancien, mais tu ne fais rien. Ça ne sert à rien. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas cette responsabilité-là quand tu voyages, quand tu changes. Maintenant, quelqu'un qui a le don de pasteur quand il change de lieu, même si on ne l'appelle pas pasteur, mais ce don-là, cette capacité-là à paître le troupeau, à parler, à nourrir, à encadrer, il l'aura toujours parce que c'est Dieu qui a mis ça en lui. Alors que le titre d'ancien a une partie qui est une émanation locale, c'est-à-dire les gens de la localité ont vu ton travail, ont vu ton expérience, ont vu ta fidélité et ils te responsabilisent. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas dedans. Il est quand même dedans, mais il y a une partie locale qui est dans l'affaire. Alors que pasteur, évangéliste, prophète, c'est un don qui vient de Dieu. Et donc même quand tu changes de lieu, tu as toujours ce don-là. Voilà. Donc c'est ça, les anciens. Et puis, il y a un terme qui suit après ancien, c'est le terme d'ange. Les anges, c'est des esprits créés par Dieu pour dans son amour, mais en ce qui nous concerne, nous, les humains, c'est Dieu se sert des anges pour venir nous aider dans la tâche qu'il nous a confiée. Donc les anges ne sont pas des humains, ils n'ont pas de corps humain comme nous, c'est des esprits. Donc nous lisons ça dans Hébreux au chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er. Verset 7. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc les anges sont des esprits, maintenant qui peuvent paraître sous la forme d'humains parfois, mais c'est des esprits qui ont des capacités extraordinaires mais, et qui sont obéissants à Dieu, alors que les mauvais anges, ceux qui ont péché, ceux qui ont fait le mal, ont suivi Satan dans sa rébellion et ils sont dans le camp du diable en train de faire le mal aux humains. Donc il y a les anges de Dieu qui viennent soutenir les enfants de Dieu et il y a on voit ça encore au verset 14, au verset 13 et 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc les anges sont envoyés sur terre pour faire un service auprès des enfants de Dieu auprès des chrétiens. C'est des esprits. Ce n'est pas des humains. C'est... Et l'erreur qu'il ne faut pas non plus commettre, c'est de chercher à les connaître et à les adorer. Parce que ça nous fait entrer dans le monde spirituel et Dieu ne veut pas qu'on entre dans le monde spirituel. Il veut qu'on reste dans le monde physique, mais en communion avec lui. Mais commencer à vouloir connaître les anges, les adorer, les prier, c'est interdit, ce n'est pas bon. Donc on lit dans Colossiens 2. Oui.
Une question. Dans Apocalypse 2, lorsque l'apôtre Jean parle qu'on puisse écrire aux anges de cette église, est-ce que c'était les gardiens de ces églises-là ou c'est les anges?
Alors, donc je vais arriver là. D'accord. Donc je vais répondre. Donc on finit le côté ange-esprit. Donc dans Colossiens chapitre 2, c'est écrit au verset 18.
que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Donc, que personne ne nous entraîne dans le culte des anges, commencer à prier les anges, les adorer, en appeler à leur aide. Oh, ange Michael, viens m'aider. Non, il ne viendra pas. Donc, il ne te connaît même pas. Il connaît que la voix de Dieu. Et c'est des abominations. Donc, que personne ne nous entraîne dans le culte des anges. Et on ne doit même pas, on ne doit pas les adorer non plus. Et d'ailleurs, même à plusieurs reprises, il y a des humains qui ont voulu adorer les anges ont refusé. C'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'on n'adore que Dieu seul, on ne peut pas adorer autre chose. Donc on ne peut adorer que Dieu seul. Et à chaque fois qu'on adore les anges, on ne les connaît pas, mais en les adorant en plus, nous tombons dans la malédiction. Apocalypse chapitre 22, verset 9. On peut commencer au verset 8. Apocalypse 22, verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Voilà. Donc, Jean, impressionné par l'ange qui lui parlait, il a voulu l'adorer. Tellement il aime. Donc les anges sont impressionnants. Parce que quelqu'un comme Jean, qui connaissait bien Dieu, qui connaissait bien la parole de Dieu, a été impressionné tellement par l'ange qui était en face de lui, qu'il a voulu l'adorer. Donc ça montre que les anges sont vraiment impressionnants. Cependant, ce ne sont que des créatures. Et l'ange dit à Jean, mais moi je suis un compagnon de service pour toi. Je ne suis pas Dieu. Adore Dieu. Voilà ce que l'ange dit à Jean. Donc on ne doit pas faire de culte des anges, c'est des esprits envoyés par Dieu pour nous soutenir, nous fortifier, nous aider, nous amener les messages de Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui les pilote. Nous, on n'a pas à avoir une relation directe avec eux. Voilà. Oui. Donc, on doit éviter de chercher une relation directe avec eux.
Mais si les anges sont impressionnants, comment ça se fait?
On n'entend pas.
Si les anges sont impressionnants, comment ça se fait que dans l'Ancien Testament, il y a un ange qui s'est fait maîtriser par Jacob, je crois, quand ils sont bagarrés.
Un ange se fait maîtriser par Jacob.
S'ils sont impressionnants comme ça, pourquoi?
Dieu a aidé Jacob.
Un, deux.
Dieu a aidé Jacob pour lutter. Dedans aussi, il y a un message. Parce que cet ange-là, en quelque sorte, représentait Dieu lui-même. Hein. Donc Jacob n'a pas voulu lâcher Dieu. Et on voit que c'est Dieu qui s'est laissé faire parce qu'après il a frappé Jacob. Jacob a commencé à boiter. Donc si vraiment cet ange voulait vaincre Jacob d'une manière physique, il pouvait le faire. Mais là c'était une lutte spirituelle où Jacob montrait son attachement à Dieu, il ne voulait pas lâcher Dieu. Et ça s'est manifesté en un combat physique. Mais en réalité c'est une lutte spirituelle. Et physiquement, Jacob ne peut pas tenir face à un ange.
Tu n'as pas répondu à la question de Claude.
Ah oui, mais j'arrive.
Ah, pardon.
Ok. Donc là, c'est les anges esprits. Maintenant, quand nous voyons dans la Bible écrit ange, ce n'est pas toujours esprit, parce que ça veut dire aussi envoyé. Ange veut dire aussi envoyé.
Voilà, donc un envoyé, c'est un ange. Ça veut dire aussi ça. Et dans les lettres, quand on écrit, quand c'est écrit dans l'Apocalypse, écrit à l'ange de Laodicée, écrit à l'ange de Thyatire, ce mot ange, arrivé à ce niveau-là, ce n'est pas le même mot quand nous lisons ange, quand nous sommes en train de lire là. C'est un autre mot grec, agelos, qui ne veut pas dire envoyé, mais qui veut dire représentant de Dieu, dans quelque sorte. Voilà. Donc c'est des représentants de Dieu. Non, ce n'est pas l'ange esprit, mais c'est l'ange où on insiste sur le représentant de Dieu. Peut-être ça veut dire aussi envoyé, mais on insiste sur le côté représentant. Donc, on ne sait pas à 100% si c'est l'ange esprit. C'est pourquoi il y a des bien-aimés qui ont supposé que c'était aussi les représentants de Dieu dans l'église à qui recevaient la lettre. Donc, ça peut être des humains. Donc, on peut appeler un humain un ange dans le sens où il est représentant de Dieu, envoyé de Dieu. On peut aussi appeler un humain ange dans ce sens-là. Mais en général, ange, c'est des esprits. Oui.
Ne riez pas. En fait, c'est passé à la télévision gabonaise, un prophète. Il y avait eu des mouvements au Gabon. Et un prophète qui a fait le jeûne parce qu'il a vu en vision un ange qui s'appelle Triatron, un nom comme ça.
Non, on n'a même pas besoin du nom, voilà.
Oui, et puis un autre qui s'appelle...
Non, c'est bon, qui a...
Voilà, et donc je voulais savoir, est-ce que ce sont des anges de Dieu?
Lui, il a fait le jeûne pour les rencontrer, ou bien il faisait son jeûne et il les a rencontrés.
Bon, qu'il a eu la vision, qu'il devait... venir saccager le Gabon parce que les Gabonais font des crimes rituels. Et donc, lui, il a jeûné pour qu'il ne détruise pas le Gabon.
Que ces deux anges ne détruisent pas le Gabon.
Voilà.
Et après, il les a rencontrés.
Et c'est lui qui a bloqué en jeûnant.
Bon, ça n'engage que lui-même. Hein. Ah. Voilà. Ça n'engage que lui-même. Mais nous... Notre relation, c'est avec Dieu, ce n'est pas avec les anges. On est en relation avec Dieu et c'est Dieu qui nous met en relation avec les anges. Nous, on ne peut pas chercher une relation directe avec les anges, comme on a lu dans Colossiens 2, que personne ne nous entraîne dans le culte des anges. C'est Dieu, lui, seul, qui peut nous mettre en relation avec les anges. Oui.
Oui, tu as dit tout à l'heure que ça pourrait être un humain et un ange. C'est ça?
C'est-à-dire, quand on, oui, dans la Bible, parfois, le mot ange, comme dans Apocalypse, ça peut être un humain.
Oui, bon, ma question, c'est un envoyé qui est venu en humain.
Ah non, un humain comme nous.
Ce que Dieu l'utilise pour ce titre, quoi.
Non, c'est pas un titre.
C'est un titre, mais bon, Dieu l'utilise pour une mission.
Non, c'est un représentant de Dieu quelque part, voilà.
Ah bon, qu'on l'appelle ange.
Oui, oui, donc ça n'a pas le même mot, parce que nous, on parle en français. La Bible a été traduite du grec. Donc, il y a deux mots qui veulent dire ange. Il y a un mot qui est relatif aux anges esprits, et il y a un mot agelos qui est relatif aux anges, à des humains.
D'accord.
Voilà, le problème vient du fait que nous, on parle français et que les choses ont été écrites en grec et en hébreu. Oui.
Donc, aujourd'hui, tout bon serviteur de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu... qui est déjà établi quelque part, on peut le considérer comme aussi un ange, selon le mot grec là que tu dis.
Selon le mot grec là, mais évitons, pour éviter les complications, donc c'est un humain qui est là, on respecte l'autorité que Dieu a placée sur lui, mais évitons de l'appeler ange, parce qu'après, tout va aller très vite. Voilà. Ok. Il y a un autre mot, apôtre. Et à l'origine, apôtre aussi veut dire envoyé, d'où le problème ange-apôtre. Hein. Donc, puisqu'apôtre aussi veut dire envoyé, ange veut dire envoyé. Donc, apôtre, à l'origine, ça veut dire envoyé. Et ça se comprend parce que Jésus a envoyé les apôtres aller sauver l'humanité. Et il les a choisis d'abord. mais d'une manière chrétienne. Donc, puisque nous, on est en train de parler du vocabulaire chrétien, on n'est pas en train de parler du grec ni de l'hébreu, du vocabulaire que les chrétiens emploient. Apôtre, au début, c'est les 12. Au début, c'est les 12 apôtres que le Seigneur a choisis. Donc, il les a appelés apôtres, il n'a pas appelé tous les disciples qui l'accompagnaient apôtres. Il n'a appelé que les 12 apôtres. Les autres, c'était des disciples. Donc, quand on voit dans Luc, au chapitre 10 et Matthieu 10, il envoie des disciples. Donc, il n'envoie pas forcément, on ne dit pas apôtres, donc il envoie des disciples. Et parmi les disciples, il y avait 12 qu'il a appelés d'apôtres. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas que le côté envoyé, parce qu'il a pu envoyer les disciples à un moment donné, il y a le côté responsabilité. Donc, apôtre, ça combine le côté être envoyé et le côté pilier. Hein, si on peut faire une petite comparaison, vu le nombre 12, c'est les chefs de tribu d'Israël. Donc, apôtre, il y a l'étymologie chrétienne, la source chrétienne, il y a un côté responsable d'un grand troupeau. Voilà, puisque si Jésus en a choisi 12, c'est en comparaison des 12 tribus d'Israël qui avaient aussi des chefs des tribus, voilà, par tribu. Donc une tribu, c'est un grand troupeau. Donc un apôtre a une grande responsabilité sur terre, sur un grand troupeau, et en même temps c'est un envoyé qui peut être conduit dans une mission que le Seigneur a formulée pour lui. Et en même temps, puisque quand on compare avec les 12 tribus d'Israël, il y avait le côté pilier, c'est les chefs de tribus, c'était des gens qui permettaient la continuité des choses. Qu'on ne trafique pas les choses, c'était des colonnes, ils permettaient la continuité des choses. L'apôtre a aussi ce rôle-là de fondation pour soutenir les choses. Et c'est ça que plus tard, il n'y a pas que les 12 qui ont été appelés apôtres. Paul aussi a été appelé apôtre. Donc certains qui n'étaient pas parmi les 12 ont été appelés apôtres vu le côté responsabilité, le côté missionnaire envoyé et le côté pilier. Donc on sait tous que Paul est un pilier parce que ses écrits ont été une référence pour les églises de l'époque, c'est sa prédication. Ensuite, pour nous, mais il n'y avait pas que Paul, il y avait Jude, il y avait Silas. Donc après, il y a d'autres personnes qui ont porté le titre d'apôtre sans avoir été parmi les 12. Donc là, on se réfère plus au côté pilier, responsabilité, mission. Voilà. Et voilà, oui, j'ai déjà dit pilier, donc socle pour l'église du Seigneur. Donc un apôtre, c'est quelqu'un qui va permettre la stabilité de l'œuvre de Dieu, qui va permettre la continuité, qui va être responsable d'un grand troupeau et qui va aussi être envoyé par Dieu pour faire des choses, bâtir des choses là où il n'y en avait pas ou là où il y en a, mais faire des choses envoyées par Dieu, déplacées par Dieu pour faire ces choses-là. Voilà un peu ce qu'on peut dire d'un apôtre. Et ainsi, c'est passé de 12 et à plus. Et est-ce que aujourd'hui on peut appeler des gens apôtres vu le sens qu'on vient de donner après les 12? Je crois que oui, parce que sinon, on devrait s'arrêter aux 12. Mais si Paul lui-même s'est considéré comme apôtre et a défendu son apostolat, donc on peut considérer que ça ne se limite pas aux 12. Ça revêt maintenant beaucoup plus le sens de la responsabilité de l'architecte. Et d'ailleurs, Paul nous donne une petite explication dans 1 Corinthiens chapitre 3. Il dit qu'en tant qu'architecte, donc j'ai bâti, donc il y a le côté architecte dans la logique du ministère apostolique. Corinthiens 3, verset 9. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu.
Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc Paul nous donne sa fonction, son travail à lui, c'était de poser le fondement, la fondation pour que d'autres viennent bâtir dessus. Donc à partir de là, on peut considérer que jusqu'aujourd'hui, il y a des apôtres, des gens qui posent des fondements, des gens qui, comme Paul, ont une responsabilité sur, pas sur juste un troupeau local, mais un troupeau général dans une région, dans un pays, voilà, dans le monde entier. Donc c'est des gens qui ont une responsabilité sur beaucoup de chrétiens. Et ce qu'était l'apôtre Paul. Donc à partir de lui et d'autres comme Jude, Silas et Timothée, on peut comprendre à peu près c'est quoi un apôtre du Seigneur. Maintenant, vous savez, je le répète, les titres, ce n'est pas ça qui fait le travail. C'est l'appel de Dieu qui fait le travail. Même si on ne nous appelle pas apôtre, il y a quelqu'un qu'on n'appelait pas apôtre, ni Toucheng, Watchman Nee, on ne l'a pas appelé apôtre, mais les gens qui connaissent Watchman Nee savent bien qu'il était apôtre. Voilà, donc c'est, on l'appelait frère Nee. Ce n'est pas le problème qu'on t'appelle ou apôtre ou pas, ou on peut t'appeler Nee, Watchman, frère. Ta fonction se manifestera, ton travail se manifestera et montrera que oui, tu es un apôtre ou tu es autre chose. Voilà, c'est ça qui est important. Ne cherchons pas les titres, ne cherchons pas à nous battre pour cela. Donc, c'est le travail qui va démontrer ce que nous sommes réellement. Ok, nous continuons avec un autre mot qu'on retrouve dans le milieu chrétien, argent. Il y a le mot argent que l'on retrouve aussi fréquemment dans le milieu chrétien. L'argent, dans le milieu chrétien, quand Jésus parle de l'argent, il y a l'argent lui-même, physique, donc le moyen d'échange de services et de biens, et l'argent, l'esprit, voilà, l'esprit que le Seigneur appelle aussi Mammon. Donc il en parle dans Matthieu 6, il dit on ne peut servir deux maîtres, on ne peut pas servir Mammon et Dieu. Donc ce Mammon-là, c'est l'esprit de l'argent, l'esprit qu'il y a derrière l'argent, qui pousse les gens à être dépendants, esclaves et à aimer beaucoup l'argent. C'est un esprit qui est là, un esprit mauvais, un des généraux du diable. Et donc, sinon, lui-même, donc, puisque c'est vraiment un esprit puissant, et donc, il y a les deux sens de l'argent. Il y a l'argent moyen d'échange et il y a aussi l'argent, l'esprit de l'argent. Donc, il y a ces deux nuances à retenir. Dans les milieux chrétiens, on en parle souvent. Mais nous, on n'est pas là pour faire des explications rallongées sur les choses. On est juste en train de donner quelques notions. Donc, voilà. Et un petit conseil, donc 1 Timothée 6. Verset 10. Timothée 6. À partir du verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voilà la réalité. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc la Bible nous exhorte à ne pas aimer l'argent. Juste nous en servir, mais pas aimer, pas s'attacher, parce que c'est une racine de tous les maux. À partir de l'argent, beaucoup de maux peuvent sortir, beaucoup d'erreurs peuvent se commettre, et c'est bien écrit, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. L'argent va produire beaucoup de désirs
qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Et verset 10, « Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Vous êtes témoin de cela. Combien dans beaucoup d'églises, les choses ont changé parce que les gens sont amoureux de l'argent. Ils prêchent l'argent à tort et à travers. Or, le Seigneur est clair, on ne peut pas servir deux maîtres, on ne peut pas aimer l'argent et lui-même. Sinon, on s'égare, sinon on tombe dans des tourments, dans des désirs compliqués et ça finit toujours mal. Oui.
Je voulais savoir, est-ce qu'une personne qui a toujours envie de posséder des choses sans forcément avoir l'amour de l'argent...
Elle est déjà dans le piège.
Donc, est-ce que cette personne, elle a l'esprit de maman?
Ah, bien sûr.
Mais parfois, elle cherche, c'est pas l'argent qu'elle veut, c'est juste posséder, enfin posséder, oui, même pas. Toujours à vouloir acheter quelque chose, c'est pas pour l'argent, c'est pas le désir d'avoir
et
l'argent pour
achète?
Acheter. Non, mais oui, avec l'argent, mais justement, il y a des gens qui s'en fichent de l'argent, mais qui aiment bien tout avoir. Parce qu'il y en a qui veulent être riches, vraiment avoir la richesse.
Mais comment tu vas avoir tout sans argent?
Ben, moi, je connais quelqu'un qui cherche...
Par
qui
la prière. Non, ah oui, mais là, on va
non.
y arriver.
Là, c'est donc, vraiment... En fait, c'est une personne qui... Elle s'en fiche d'être pauvre ou d'être riche ou d'avoir un gros compte en banque, mais elle aimerait bien avoir plein de choses. C'est même si on lui donne. Même si on lui donne.
Ah, mais c'est toujours l'amour pour les choses. Hein. C'est pour la convoitise matérielle.
Donc,
donc
la convoitise, est-ce que l'esprit de maman, il est dans la convoitise? Est-ce qu'il est là?
Mais oui, il est dans la convoitise parce que l'argent, c'est quoi? C'est le moyen de changer les biens et les services. Donc là... Il n'a pas forcément l'argent physique, mais il a l'amour des choses que donne l'argent. Il veut les avoir. Il veut les avoir.
Et quand cette personne a dit qu'elle veut avoir ça, mais même si on lui donne, qu'on lui donne ou que quelqu'un lui offre, par exemple, ou qu'elle l'achète elle-même, elle, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'elle s'en fiche vraiment. Mais ce qu'elle veut, c'est l'avoir.
Ah oui, mais c'est pareil. Parce que c'est avec l'argent qu'on veut avoir les choses. Mais toi, tu te dis... Je ne veux pas forcément utiliser l'argent, le billet, mais je veux les choses. Mais l'objectif est le même. Pour quelqu'un qui veut avoir l'argent, il veut les choses. Et toi, tu veux la personne veut les choses.
On peut lui dire que c'est l'esprit de maman quand même.
Mais c'est l'objectif est le même, c'est avoir les biens matériels, la richesse. Parce que le verset commence par « ceux qui veulent s'enrichir ». Donc on veut être riche de ces choses-là, avoir beaucoup de choses. « Ceux qui veulent s'enrichir ». La richesse, ce n'est pas seulement l'argent, la monnaie, c'est tout ce qu'on possède. Les biens, c'est les biens. Ceux qui veulent avoir beaucoup de biens, en quelque sorte, on peut dire, ceux qui veulent avoir beaucoup de biens tombent dans le piège. Oui.
Moi, je voudrais revenir sur le mot posséder, parce que c'est marqué en étant possédé. Donc là, il s'agit d'une possession. C'est comme lorsqu'on parle d'une possession démoniaque, des esprits mauvais sur quelqu'un. L'amour de l'argent, donc, amène une véritable possession, parce qu'on dit
ah oui,
étant
oui.
possédé.
Ah oui, oui. Il y a des gens qui aiment... au début, c'est quoi? Je veux avoir beaucoup d'argent pour m'acheter une maison, pour m'acheter une voiture. Après, ça atteint un niveau où tu vas avoir beaucoup d'argent pour avoir seulement l'argent. On va faire un séminaire sur l'argent. C'est-à-dire que quelqu'un, il se délecte de voir l'argent. Quand il voit l'argent, il est bien. Mais au début, on veut avoir l'argent pour acheter la plus belle crème glacée, pour acheter la plus belle voiture. Mais à un moment donné, ce n'est plus pour ça, puisqu'on a tout ça. C'est maintenant juste parce qu'on veut voir l'argent. Harpagon, les gens qui en connaissent Molière, voilà, donc c'est ça. Donc Harpagon voulait avoir de l'argent pour avoir. Donc c'est la présence de l'argent lui fait du bien. Donc, il y a des gens qui, lorsque à la caisse, on a oublié 20 centimes, ils vont se battre, il faut qu'on leur donne les 20 centimes. Donc, l'argent lui-même, puisqu'ils ne vont rien faire avec 20 centimes, mais il faut qu'ils reprennent les 20 centimes. C'est l'argent lui-même qui commence, c'est ça la possession. L'argent lui-même commence à leur faire du bien. Oui.
Donc, moi, j'ai une question. Et donc, l'argent, c'est un piège.
Quand on l'aime... C'est un piège.
Alors, est-ce que quelqu'un qui a... Parce qu'en fait, il y a une personne qui m'a raconté que quand elle faisait tel métier, elle avait beaucoup d'argent.
Et quand elle a, elle estimait avoir beaucoup d'argent. Et quand elle a changé de métier, elle a eu encore plus d'argent, vraiment son salaire. Et cette personne, elle expliquait que c'était, qu'elle a senti que c'était encore pas assez, alors que elle a vraiment beaucoup d'argent. Et donc cette personne-là, vraiment, elle expliquait clairement qu'avant, elle pensait que ça lui suffisait, mais quand elle a changé de métier, l'argent vraiment a décuplé, elle pouvait tout s'acheter, mais c'est là qu'elle s'est rendue compte, alors c'est pas quelqu'un de chrétien, et donc cette personne-là disait que finalement, voilà, pourtant, elle pouvait tout s'acheter, mais elle a senti
finalement,
l'amour.
Finalement, ça finit mal parce que la soif n'est jamais...
Bon, maintenant, après, je ne sais pas, bibliquement, il y a quelqu'un qui est resté riche et calme.
David.
Oui, mais bon, autre que David.
L'homme parce selon
que,
le cœur.
Voilà, c'est ça. Mais moi, je parle de quelqu'un niveau en dessous, quoi. Un peu... parce que dans ces cas-là, je me dis... parce que David, bon, voilà, quoi, c'est trop...
Ah, mais non, David est un homme comme nous.
Oui, bon, mais... est-ce qu'il y en a un autre?
Élisée.
Oui, Abraham.
Élisée, bon, on lui a amené des trucs en or, des bijoux, des richesses. Il a dit, je ne prends pas.
Okay,
parce qu'en lui amenant, il devenait riche. Il a dit, mais je ne prends pas, je redonne ça.
Parce que j'ai du mal à imaginer de garder, entre guillemets, les pieds sur terre. Ok, ouais. Voilà.
Zachée.
Bon. Et, parce que...
Tous les amoureux de Jésus, l'argent ne leur dit rien, parce que Jésus, c'est quelque chose de déçu.
Moi, je me dis, c'est
Jésus
pas...
Jésus touche comme ça, le pain se transforme en or. Donc, quand tu aimes Jésus, l'argent, c'est rien du tout.
Parce que comme l'argent, à l'époque, c'était...
Tu as déjà atteint tes objectifs.
Oui.
C'est ce que je dis quand on dit, mais je ne cherche pas la promotion, le travail, j'ai déjà atteint mes objectifs. Donc, c'est quelqu'un, mais pourquoi tu t'intéresses? Mais je ne m'intéresse pas parce que moi, j'ai déjà atteint mes objectifs. En Jésus, les objectifs sont atteints. Donc, on ne s'intéresse plus à rien.
Moi, je suis d'accord. Mais en 2015, là, on a l'impression que le monde fait qu'on peut être comme un aimant attiré par des choses peut-être qu'il n'y avait pas avant.
Oui, oui. Donc, mais celui qui a Jésus trouve tout ça rien du tout. On n'a pas besoin d'être Élie ni David. Il suffit d'aimer le Seigneur.
Pasteur, beaucoup de prédicateurs ont lu ces passages-là, ils ont prêché là-dessus, mais eux-mêmes, ils se sont fait avoir par rapport à ça. Et un petit conseil pour nous aider à ne pas se faire avoir.
Alors qu'on n'a pas grand-chose, n'aimons pas l'argent. Ne nous disons pas, quand il y en aura beaucoup, je ne vais plus aimer. Non, c'est maintenant, quand il n'y en a pas, il faut déjà aimer cet état-là. Lorsque tu es dans cet état, tu es en train de dire, mais je n'ai rien, c'est normal que je cherche. Hein? Donc quand non, celui qui a Jésus est satisfait. Donc ce sont des gens qui, pendant qu'ils prêchaient, ça c'est parce qu'ils n'avaient rien du tout. Donc ils prêchaient ça parce qu'ils n'avaient rien, mais ils se disaient, un jour Jésus nous donnera, on sera riche. Non, il ne faut pas se dire ça. Il y a des gens qui disent, un jour Dieu me bénira. C'est faux, Dieu t'a déjà béni. Dès aujourd'hui, tu es bien. Donc, quelqu'un qui, dès aujourd'hui, est bien, n'aura pas besoin d'autre chose plus tard. C'est ça l'erreur qui se fait. Beaucoup de gens disent, aujourd'hui, je suis dans la pauvreté, c'est parce que c'est le temps de Dieu de la pauvreté. Plus tard, il me donnera la richesse. C'est faux! On est déjà riche dès maintenant. Quand tu es dans cette attitude-là, tu es déjà rassasié de la pauvreté, mais quand viendra la richesse? C'est un exemple. Tu as très bien mangé un repas qui coûte 20 euros, mais ça t'a rempli le ventre, tu as bien mangé. Même si on vient t'exposer une nourriture qui coûte 5 millions d'euros, tu ne vas pas manger parce que tu es déjà rassasié. Donc ce qu'il faut faire, c'est que dès maintenant, qu'on soit rassasié par le Seigneur, maintenant, de sorte que quand quelqu'un viendra nous proposer une Rolls Royce, on dit, mais non, mais moi je suis bien tel que je suis. Voilà, ce n'est pas ça qui va me donner du bonheur. Mais quand maintenant quelqu'un n'est pas rassasié, il se dit, mais quand j'aurai telle chose, c'est là que je serai bien. Quand j'aurai encore telle chose, c'est là que je serai bien. C'est des gens, tôt ou tard, tomberont dans le piège. Tôt ou tard. Donc c'est ça le conseil que je veux donner. Dès maintenant, soyons rassasiés. Maintenant, si Dieu veut nous élever au travail, Dieu nous bénit financièrement, on accepte. Mais si on est déjà rassasié, ça n'aura aucun impact sur nous. Aucun impact. Parce qu'on est déjà rassasié par le Seigneur lui-même. Donc il faut se rassasier dans le Seigneur. Il y a un chant qui dit, je veux me rassasier de ton image. Par ton amour, je verrai ta face. C'est ça. Je veux me rassasier de l'image du Seigneur. Donc c'est ça qu'il faut adopter comme attitude. Comme le diacre a posé une question très importante. Beaucoup de gens ont parlé comme nous. On en parlait avec la sœur Naomi au bureau. Mais ils ont fini par céder. Pourquoi ? Parce que tu te dis, ce que je suis n'est pas bon. Dieu va me rajouter. Tu es toujours dans la logique Dieu, mais tu es déjà dans l'insatisfaction d'aujourd'hui. Donc, tôt ou tard, de telles personnes finissent par tomber. Tôt ou tard. Des gens qui considèrent que leur bonheur viendra le jour où ils vont acheter telle chose, ils vont avoir telle... C'est fini. Dites-vous bien que, même si aujourd'hui ils semblent honnêtes, ils se feront avoir tôt ou tard. Parce qu'ils ne sont pas satisfaits par le Seigneur. Ils ne sont pas rassasiés. Voilà. On va prier. Donc on s'arrête là. Seigneur, nous prions que tu nous aides à être satisfaits de toi, à nous rassasier de ton image. Que l'on soit en Sibérie, en Ouzbékistan, au Maroc, en Algérie, au Sénégal, que nous soyons rassasiés de ton image, Seigneur. Même en prison, comme beaucoup de nos prédécesseurs qui se sont retrouvés en prison, qui étaient heureux. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Et nous prions que nous puissions comprendre bien le vocabulaire chrétien, afin que ça nous serve à faire grandir les gens, à amener d'autres personnes à toi, Papa. Béni soit ton nom, à toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus, merci pour ta fidélité. Amen.